Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Windows 11, probablement l'un des OS les plus installés et utilisés par beaucoup qui nous regardent. Et si je vous apprenais qu'en réalité, ce que vous avez sur votre machine est un gigantesque spyware? C'est-à-dire que le logiciel qui fait tourner votre machine vous espionne. Peut-être que vous le savez déjà un peu, mais je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est profond et à quel point ça a changé en réalité sur les dernières années. Aujourd'hui, on va vous le démontrer et vous expliquer pourquoi. Mais surtout, on va vous donner des astuces pour éviter cet état de fait et supprimer des logiciels qui gâchent toute l'expérience d'un système qui, par ailleurs, fonctionne plutôt bien, en fait.
Ouais, complètement. Et en fait, toute cette histoire part d'une super analyse de la chaîne The PC Security Channel. Je sais pas si tu connais, Rémi, mais...
Pas du tout.
Mais non, ok. Tiens, je me disais, tiens, non, ça, tu vas connaître. Mais en fait, non. Mais non, super chaîne. Il a fait un super taf que j'ai découvert. Je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. Et en fait, dans un premier temps, il s'est demandé si dans les appels réseau que faisait Windows, il y avait une réelle différence entre ce qu'on avait il y a 20 ans sur Windows XP et aujourd'hui ce qu'on a sur Windows 11. Et j'ai voulu connaître la différence et donc du coup j'ai regardé et est-ce que s'il y a des différences, quelles sont les raisons derrière? Et est-ce que c'est des bonnes raisons ou est-ce que c'est des raisons pas ouf de type espionnage? Il a donc fait une expérience avec un logiciel très connu qui s'appelle Wireshark, donc qui permet d'analyser les requêtes réseau qui arrivent et qui sortent de notre ordinateur. Et il l'a lancé sur deux PC différents, donc l'un sur Windows XP et l'autre sur Windows 11. Et alors, on va commencer par Windows 11. Il y a vraiment pas mal de requêtes qui passent, c'est assez impressionnant. Il y a des requêtes tout à fait légitimes, notamment vers des services de Microsoft. Donc on a du Bing, du SMS, on a un service de géolocalisation, donc pour savoir où est-ce qu'on se trouve quand on se connecte.
Juste pour savoir, là ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré son ordi. Il y avait pas de logiciel installé, juste un truc comme ça, nature, c'est ça?
Ouais, alors j'allais y revenir, mais c'est ça qui est assez fou. C'est qu'en fait, il a pris deux PC vierges avec l'OS tout fraîchement installé, il n'a lancé absolument aucune application, à part Wireshark, évidemment, et il a lancé Wireshark. Et déjà, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, on voit des requêtes vers Bing, on voit des requêtes vers MSN, donc le site d'actualité de Microsoft, on voit des requêtes vers tout un tas de services Microsoft, alors que...
On n'a rien fait, quoi.
A priori, nous, on se dit qu'il n'y a pas... Internet n'a pas encore fonctionné, on n'a pas lancé un seul navigateur web, et en fait, il y a déjà plein de requêtes en tâche de fond. Alors évidemment, il y a des choses à faire tourner, il y a des widgets, c'est bête, mais s'il y a la météo, il faut récupérer la météo, des choses comme ça. Mais bon...
Mais ça va plus loin que ça.
Mais évidemment, ça va plus loin que ça, déjà parce que ça contacte des services qui ne sont pas Microsoft, alors que, encore une fois, nous n'avons rien lancé sur le PC. Donc on a un domaine de Google, les Google APIs, on a Akamai qui est un CDN, donc c'est comment définir un CDN? C'est quelque chose qui...
Un hébergeur de contenu.
Un hébergeur de contenu proche de chez nous, au lieu de que tous les films de Netflix soient aux États-Unis, ben en vrai il y en a qui sont hébergés à Paris pour desservir la France. Il y a un appel à McAfee, donc l'antivirus, via le domaine trustedsource.org. Et c'est toujours des domaines un peu
trust me.
Mais bon, on se dit bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un, peut-être qu'il y a un partenariat avec
sur
McAfee.
Windows Defender, peut-être.
Mais bon, c'est quand même très étrange parce que on n'a rien lancé du tout. Je vais revenir juste après, mais en comparaison sur le côté Windows XP pendant ce temps-là, parce que ça a tourné aussi, il y a quasiment rien du tout. En fait, ils trouvent deux domaines qui sont Windows, et c'est download.windowsupdate.com et update.microsoft.com. Donc c'est vraiment, en plus c'est des URL explicites. Tout à l'heure je vous ai pas cité parce que c'est des noms à rallonge, donc on sait pas du tout où ça va. Bon bah là globalement c'est ils checkent s'il y a des mises à jour quoi. Et bon après Il y a plein de lignes sur Wireshark qui sont doublons ou dont on se fout. Hein. Mais il n'y a pas de MSN, il n'y a pas de Google. Il y a
beaucoup de requêtes DNS, par exemple, juste comme ça.
Il n'y a pas de Bing. Oui, alors là, il y avait un filtre DNS, donc c'est normal. mais ce qui est fou dans le cas de Windows 11, c'est que la personne n'a jamais utilisé Bing, par exemple, et qu'il y a une requête qui part à Bing.
Même McAfee, les antivirus. Mais même McAfee. 11, mais si... t'as plus d'antivirus, t'as Defender, t'as plus rien.
Et ben si McAfee te choque, je vais te choquer un peu plus. Okay. Parce que jusqu'ici, on va dire que c'était plutôt des domaines legit. Et sur tout ce qu'il a découvert, ce YouTuber, il y en a quand même deux qui sont assez questionnables. Après celle de McAfee et de Trusted Source. Il y a la première, c'est Score Cared Research. Donc déjà, quand on va sur le site, c'est bloqué par uBlock Origin. Ce qui n'est pas bon signe. Et en fait, quand on y va quand même, peut-être que Thiel va parvenir à y aller, on découvre tout simplement... on n'a pas la même interface, mais ouais, ok, ça doit être ça. Que c'est un, je cite, « service qui étudie et rapporte les tendances et le comportement sur Internet. Effectue des recherches en collectant des données de navigation sur Internet et utilise ensuite les données pour montrer ce que les gens utilisent sur Internet, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. » Et ça, c'est envoyé
par défaut, ouais.
Minute 1, quand tu lances un Windows... On envoie des données à ce service qu'on ne connaît ni Dev ni Adam, qui n'est pas affilié à Microsoft, mais visiblement, il y a potentiellement
d'avoir un partenariat,
un contrat, un partenariat avec ce service et données de personnalisation. Globalement, on envoie vos données.
Et surtout, ça veut dire que c'est minute une, c'est probablement toutes les suivantes aussi, quoi. C'est-à-dire que
mais ouais. Et en fait,
c'est juste tu commences, t'es déjà traqué.
Ouais, en étant inactif, ouais. Si t'es actif.
Et ce qui est fou, c'est que tu fais ça de façon tout à fait gratuite, sans avoir validé un seul pop-up. Bon, tu as validé des conditions d'utilisation, certes, mais sans avoir lancé un seul navigateur web. Deuxième exemple, c'est l'URL privacyprotocol.onetrust.com. Et alors, là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que dans sa vidéo, il dit souvent, quand il y a privacy dans un nom de domaine, c'est qu'il envoie des données. Et pareil, alors en fait, je sais même pas trop exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui gère tout ce qui est GDPR. En français.
Ouais, RGPD. Je sais que c'est très utilisé justement en entreprise pour gérer là où tes données.
Voilà. En gros, pour générer la confidentialité des données des entreprises, c'est un service très connu, ce qui est très cool. Hein. Pourquoi un ordinateur qui n'est pas affilié à une entreprise, un ordinateur personnel avec Windows 11, envoie des données à un domaine qui appartient à cette entreprise? Encore une fois, on ne sait pas. C'est un peu bizarre. Mais du coup, à la question, est-ce que Microsoft vend vos données à des sociétés de publicité? Ça peut paraître bête à dire, mais oui, c'est le cas. Et moi, ce qui me fume, c'est que, enfin, ce qui me terrifie, c'est que Windows 11 est payant. Ça coûte 150 euros. Alors, peu de gens d'entre nous l'achètent parce que soit on l'achète de façon détournée quand on achète un PC, soit parce que vous êtes absolument d'infâme crapule qui téléchargeait Windows illégalement, mais ça coûte 145 euros. Et donc, dans un OS que tu payes, en fait, on a l'habitude de Google, on sait que nos données sont utilisées, et c'est le business model, ouais, on ne paye rien.
Gratuit, c'est un peu le deal que tu fais.
Et là, t'achètes 145 euros ton logiciel et t'as tes données qui partent de façon tout à fait random à des services tiers qui ne sont pas de Microsoft. Voilà, je trouve ça un peu scandaleux. Mais du coup, ça m'a fait penser à plein d'autres choses. Alors, restez jusqu'à la fin parce que du coup, on va vous montrer comment ne pas envoyer ces données pour éviter d'envoyer des données à on ne sait pas quel Scare Research Institute of Data.
Moi, dans le chat, il y en a qui disent oui, c'est bon, on découvre que l'eau ça mouille. En mode, c'est parfaitement évident, mais je pense que vous vous trompez parce que tout le monde n'est pas du tout au courant de la quantité de données qui part constamment et surtout du fait que ça a évolué. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à la limite, qui disent oui, alors soit on se fait pister tout le temps partout, soit qu'ils sont très naïfs sur le sujet, mais de réaliser, de voir les deux Wireshark l'un à côté de l'autre et de voir que sur Windows XP, il y a 20 ans, tu démarrais ton OS Microsoft, il y avait rien, quoi. Ouais. Il se passe, ta machine ne fait rien quasiment en tâche de fond sans te prévenir. Et ben ça n'a pas toujours été comme ça, en fait.
Et puis, si t'es pas connecté à Internet, ton OS, il marche très bien, heureusement. Et il y a pas du tout toutes ces données qui partent. Donc, moi, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'en apprenant les conditions de l'expérience, c'est vraiment, il venait de lancer son PC, quoi. Et il avait juste un logiciel d'installer dessus, c'est Wireshark. eh ben, t'as quand même énormément de données qui partent. C'est moi, c'est plus ça. C'est, tu te dis, à partir du moment où tu lances un navigateur web, ah, ok, d'accord, il y a des choses, quoi. Mais là, c'est assez fou. Et du coup, tous ces comportements un peu étranges qui se passent sur Windows, m'ont un peu rappelé toutes ces vieilles pratiques pas ouf qu'on trouve sur des Windows depuis tout temps, surtout depuis après Windows XP, justement, à partir de Windows Vista, à commencer par les bloatware. Donc, les bloatware, c'est ces logiciels qui sont préinstallés sur des machines et dont on en a un peu rien à faire. Ça peut être des logiciels qui sont préinstallés par Windows directement ou par le fabricant d'un PC qui rajoute des logiciels. Donc des logiciels préinstallés par Windows, ça peut être Candy Crush, Facebook, Disney, Netflix. En fait, ce sont des partenariats que fait Microsoft en fonction de votre région. Ça dépend de là où vous habitez. Ils vous installent des packages d'applications.
Je sais que ça se fait beaucoup sur les téléphones quand tu prends Android.
Android, c'est
un enfer.
Android, c'est gratuit.
Voilà.
Mais oui, Android, il y a beaucoup ça sur Android. Là, je me suis focus sur Windows, mais évidemment, il y a plein de bloatware sur Android. Il y a aussi des applications payantes en version gratuite, en version d'essai, qu'on installe, par exemple, des antivirus. Souvent, c'est des logiciels de sécurité. Évidemment, il y a les applis de Microsoft. J'ai un peu plus de mal à en vouloir, mais tout ce qui est Cortana, Mail, Calendar, Teams, etc. Bref, beaucoup de choses qui sont pas nécessaires à un système d'exploitation et qui globalement peuvent prendre des ressources, parfois ralentir son PC. Et c'est même déjà arrivé que des bloatware aient des failles de sécu. Et donc du coup, le fait que t'aies un logiciel pas désiré sur ton ordinateur
te rendait vulnérable à une
faille de sécurité.
Je crois que c'est le nouveau qui avait été épinglé il y a quelques années.
Ouais. Ça pourrait faire l'objet.
On en a parlé même.
On a déjà parlé de ce truc.
Oui.
Ah ouais.
Vous avez oublié, mais oui.
Eh ben j'ai oublié. Je sais pas quoi.
Je retrouverai la chronique, mais ouais.
Bref. c'est le plus connu d'ailleurs. C'est le nouveau. Scarfish, je sais plus.
Oui.
Bref, plein de bloatware. Comment s'en débarrasser? Tout simplement. Première méthode, très très simple, la plus simple, c'est le site Should I Remove It, qui en plus donne un petit classement en haut, vous voyez, de
les mauvais élèves,
donc Toshiba, les bloatware, ça y va. Et ça, en fait, c'est très cool pour savoir, tu peux rentrer le nom d'un logiciel que tu as envie de supprimer pour savoir si c'est une bonne idée de le supprimer ou si c'est une moyennement bonne idée.
Ah, c'est cool.
Ouais, en fait, c'est trop cool. Là, du coup, en gros, je vais vous donner plein de petits tips pour faire une clean install de votre Windows. Alors évidemment, j'ai pas tout, mais on va dire tout ce que j'ai préféré dans mes découvertes là-dessus.
Parce qu'effectivement, parfois, tu vois un truc dans ta liste de programmes qui ressemble à un nom de driver ou un truc comme ça.
Ouais.
Et tu sais pas trop si t'es en train de faire une connerie, si tu vas devoir faire une réinstall complète. Donc tu vas là-dessus et tu sais.
Et ça peut même t'accompagner dans la désinstallation de l'application. Ça, c'est la première façon. Mais après, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, sans vous prendre la tête, il existe un marché d'applications pour désinstaller des applications sur Windows parce qu'il y a tellement de bloatware et d'applications indésirables qu'il y a des applications qui s'en chargent pour vous. Je vous conseille l'excellent Bulk Crap Installer, qui en gros te fait des installations complètement automatisées.
J'aime beaucoup le nom.
Donc c'est cool.
C'est trop cool. Alors l'interface est ce qu'elle est, mais on s'en fout. Tu coches tous les logiciels que tu veux désinstaller, et lui en fait il va chercher tous les programmes de désinstallation et tout, et il le fait
à la chaîne
en background. Et d'ailleurs la vidéo, je crois qu'elle dure 5 minutes, et il met un timer en mode combien de temps ça vous prend. Dans 5 minutes vous aurez un truc super clean avec le moins d'applications indésirables que vous voulez.
En plus, je vois qu'il y a un lien sur GitHub, donc ce sera peut-être un peu plus transparent sur.
C'est cool, c'est open source. Ouais, donc c'est open source. Et il y en a un deuxième qui est d'ailleurs open source aussi. Aussi, j'en suis sûr parce qu'il y a un lien sur GitHub. Enfin, je crois. C'est Bloatbox, si vous voulez une alternative à celui-là et qui fait à peu près la même chose.
Si j'avais découvert ce truc, franchement, plus tôt.
Mais j'ai encore mieux pour toi.
Ah bon?
Bah oui, parce que ça, c'est si elles sont déjà installées.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tips pour pas venir ne pas les installer à la base? Il y en a un.
Je sais où tu iras.
Ah ouais, tu sais où je vais?
Je sais pas. Bah, moi, j'ai déjà entendu parler de versions custom de l'OS lui-même, en gros. Donc, je me demande si
c'est. Alors, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Et si tu installais Linux?
Gros troll.
Alors, je vais citer un article de blog qui a donné l'astuce. La fin de cet article de blog, c'est exactement cette phrase. Je pourrais vous la lire tout à l'heure parce qu'elle est très marrante. Mais non, mais c'est une technique en plus vraiment de l'espace. Voilà, c'est to click to install Windows sans les bloatware. En gros, c'est Microsoft a un process d'installation de Windows qui s'appelle OOBE, Out of Box Experience. Et le but, c'est de berner ce processus. Et en fait, alors il s'agit tout simplement d'installer Windows avec une clé bootable, de façon très classique. Et au moment de l'écran où on demande le temps et la monnaie que vous allez utiliser, il faut faire un petit mensonge et utiliser le English, entre parenthèses, World ou English Europe.
Ok.
Pourquoi ? Parce que tout à l'heure...
C'est hyper sombre.
C'est hyper sombre. Mais pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les bloatware de Microsoft, en tout cas, étaient installés en fonction de la région. Et en fait, ça, c'est pas des vrais formats de région. Ils sont pourtant disponibles à l'installation sur Windows, c'est ça qui est très étrange, mais ce ne sont pas des vraies régions. Et donc, du coup, le programme OOBE ne va pas savoir quel bloatware installer, et du coup, il n'en installe pas. En tout cas, ceux qui sont fournis par Windows.
Pas forcément dans la raquette, quoi.
What?
C'est vraiment vrai. Et en fait, il vous suffit de faire toute l'installation. Alors, ça provoque potentiellement une petite erreur au milieu, mais il faut les ignorer. Enfin, il faut vraiment être confiant dans son truc. Toutes les tactiques que je vais vous donner, potentiellement, il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Par exemple, ça, il faut se dire.
OBE région, ok.
Faut faire skip.
Le spyware n'a pas pu être installé.
Génial.
Parfait. Et ce qui est génial, c'est que tu te retrouves après avec un menu démarré, mais vraiment, le plus frais possible, il y a rien dedans, il y a vraiment juste normalement dans le menu débarré aujourd'hui, il y a plein de pubs justement apportées par ces spyware.
Oui, c'est
là, peut-être qu'on va pouvoir voilà exactement. Vraiment, il y a que dalle et il suffit d'aller dans les paramètres.
Ce serait parfaitement logique d'obtenir ça.
Alors tu sais que cette fenêtre est très rare dans le monde de Windows. C'est vraiment un petit graal.
À part éventuellement dans les pubs Microsoft.
Ah bah.
On revient à l'époque où tu avais Internet Explorer avec les 15 toolbars en haut en fait.
C'est vraiment
c'est
ça.
Menu démarré.
Et du coup, en fait, il suffit après d'aller dans les panneaux de configuration et de remettre la vraie région dont vous êtes, parce que notamment si vous voulez effectuer des achats sur le Windows Store et tout, vous aurez besoin que ça soit configuré en euros, etc. Sinon, ça va bugger. Mais vous faites ça et ça marche nickel et vous n'avez pas à tout désinstaller.
Mais en plus, je sais que j'ai réinstallé un PC récemment et Microsoft t'oblige quasiment à te connecter à ton compte Microsoft et ils doivent lier toutes les données et tout. Et je sais que...
Oh, on l'appelle monsieur transition.
Juste ne pas te connecter à ton compte Microsoft, c'est un enfer.
Eh ben, ça sera ma dernière partie. Parce que maintenant qu'on a essayé d'installer ça sans bloatware, comment installer Windows sans utiliser un compte Microsoft? Ça fait chier. Tout le monde, je sais pas, mais...
Alors, pour ceux d'entre vous qui sont sur Mac ou qui n'ont jamais utilisé une installation de Windows, il y a un passage obligé, c'est la connexion au compte Microsoft. Et alors, est-ce qu'il y a moyen de l'éviter?
Et alors, comment faire? Il y a tout à fait moyen de l'éviter. Petit aparté qui sera coupé au montage, mais du coup, juste sur les bloatware juste avant, il reste en quand même Teams, Mail, Calendar, etc. Ça, il faut. En fait, je crois qu'on peut les désinstaller. J'en suis même quasiment sûr, mais il faut le faire manuel.
Ouais, ok.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Ta question était donc, est-ce que c'est possible d'installer Windows sans compte Microsoft? C'est tout à fait possible d'utiliser ce qu'ils appellent un compte local. Donc, c'est ce qu'on utilisait avant,
oui.
En fait, tout
avant
simplement. Avant qu'ils nous embêtent. Et puis, qui est utilisé, je crois, sur tous les autres OS. Hein, c'est des comptes locaux, quoi. Même si parfois, ils sont liés à des comptes, typiquement un compte
avec local, cloud et tout.
Avec cloud, etc. Alors, il y a plein de tutos qui existent sur Internet pour qu'ils nous disent comment faire. Et en fait, il y a plusieurs solutions pour ça. La première, très très simple, ne pas être connecté à Internet. Donc tu débranches le câble et en fait à un moment il te propose une installation limitée. Elle est très bien. Elle est très bien quand elle est limitée.
AKA, on vous fout la paix.
Mais globalement, ça fonctionne. La deuxième solution, c'est de débrancher Internet, mais de façon software. Si le Wi-Fi, câble, c'est un peu chiant de le débrancher. En fait, il y a une technique qui est de lancer Shift F10 pour lancer un invité de commande pendant l'installation. Et il suffit de faire ipconfig/release et ça permet de couper les connexions réseau. Si besoin, on peut le refaire de nouveau après pour le remettre ou de redémarrer l'ordi, ça marchera. Voilà. Mais ça, c'est on va dire que ça va générer quelques messages d'erreur. c'est globalement tout ce qui est utilisé partout quand on craque des logiciels, on essaye de se connecter à Internet. Il y a deux autres méthodes, une qui est justement un peu plus logique, qui est de bypass ce fameux OOBE. Et donc, invité de commande, Shift plus F10, Shift F10, et c'est la commande OOBE/bypass NRO.
D'accord.
Et ça permet en fait de rendre la connexion Internet optionnelle. En fait, c'est ça qu'on cherche à dire à Windows, c'est non mais je n'ai pas obligatoirement besoin d'une connexion Internet. Et en fait, ça relance le process d'installation en mode je n'ai pas Internet, édition installation limitée, et ça fonctionne. Mais ce n'est pas ma méthode préférée, parce que la méthode préférée, est, c'est vraiment incroyable. Ça permet de garder Internet, en fait, la dernière méthode. Et en fait, c'est d'utiliser un faux mail. En fait, il y a des faux mails que tu peux utiliser lors de ta connexion à ton compte. Le plus connu, c'est a@a.com. C'est celui que vous retrouverez à peu près sur tous les tutos. Mais de ce que j'ai vu, alors je n'ai pas tout essayé, mais il y a test@test.com, fake@fake.com, 1@1.com, et mon préféré, je crois que c'est celui-là que tu m'avais donné, no@thankyou.com. En fait, c'est des emails qui sont, entre guillemets, pas valides, mais vous le mettez en mot de passe. Vous mettez n'importe quoi, vous écrasez votre clavier. Ça provoque un petit message d'erreur, je vous le cache pas, mais que vous pouvez bypass. Il n'y a aucun souci. Et du coup, après, vous passez sur le process de création d'un compte local et pas d'un compte Microsoft. En fait, il faut pas s'étonner qu'il y ait plein de éditions limitées. Tout le wording Microsoft et de vous empêcher à le faire, ça marche sur 99% des gens. Mais en fait, il vous empêche pas, je sais pas s'il y a une obligation légale, mais il vous empêche pas factuellement de le faire. Et donc, tous ces petits tricks, c'est pour dire à Windows, non mais je sais, laisse-moi tranquille.
C'est quand même dingue, parce qu'en gros, c'est la moindre petit problème. En réalité, il te laisse créer ton compte, quoi.
Ouais.
C'est juste de base, t'as pas le putain de bouton, quoi. C'est quand même dingue.
Et il te dira.
Qu'est-ce qui se passe chez Microsoft pour arriver à ça?
Dans toutes les techniques que je vous ai expliquées, il te dira quasiment à chaque fois quelque chose s'est mal passé, oups, et qui fait un peu faire peur, et tu te dis, tiens, je vais réessayer au lieu de passer, quoi. Et voilà. Et c'est une procédure que vous pouvez faire aussi. Ça, c'est, alors, je l'ai pas détaillé parce que elle a rien d'exceptionnel, mais c'est disponible sur l'article que peut-être Thiel vous a montré. C'est possible de le faire une fois que vous êtes déjà connecté à votre PC. Vous êtes connecté à votre PC avec votre compte. Vous pouvez passer, alors c'est un autre article, mais vous pouvez passer sur un compte local. Voilà, vous tapez Tech République. Oui, il y en a plein sur Internet pour faire ce genre de choses. Je reviens à notre premier problème. Ce qui est de, voilà, bon, Windows nous espionne clairement entre vouloir installer n'importe quoi. Et globalement, on fait pas ce qu'on veut de Windows. Là, on a essayé de bypass tout ce qu'on pouvait à l'installation, mais ça va pas empêcher
le spying, le
fait que Windows envoie des requêtes que vous avez pas sollicitées.
Ouais, puis jusqu'à la prochaine mise à jour, ou de réglages vont.
Voilà, exactement.
Changer quoi.
Et alors, il y a plusieurs solutions pour bypass, éviter d'envoyer des requêtes non désirées à des acteurs tierces qui ne sont pas Microsoft. En solution plutôt simple avec un logiciel et une interface, c'est toujours The PC Security Channel. Ce qui est bien, c'est qu'il a trouvé les problèmes et qu'il les a résolus lui-même. et c'est plutôt lui qui a... C'est le premier, je crois, à avoir découvert le fait à avoir montré ses requêtes réseau à aller à d'autres, et ça a été repris par tout le monde après. Je m'égare. Il conseille deux applis super complètes. C'est ONO Shutup 10 and Ultimate Windows Tweaker. C'est toujours des logiciels un peu particuliers, mais globalement, pour vous le décrire, c'est des panneaux de configuration, mais mieux faits. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez cocher comme désactiver Cortana, supprimer les appels à des applis tierces, empêcher les données de télémétrie qu'ils appellent dans l'application, désactiver Windows Defender, c'est des choses qu'on peut faire à droite à gauche dans les configs de Google ou alors en ligne de commande. Là, il y a une interface et il y a toutes les cases à cocher. Vous pouvez faire ça sur toutes vos applis. Et donc, on va dire que c'est rassemblé en une seule et même interface. Là, pour le coup, il y a deux logiciels.
C'est jamais rassurant de fou, ces outils, parce que
jamais rassurant de fou.
Ce qu'ils vont faire, c'est aller directement supprimer genre des fichiers système, aller se hooker sur des...
Changer le registre.
Des API privées de Windows et des trucs comme ça. Mais ça marche.
En fait, ça déplace la confiance. Il faut faire confiance à l'outil qu'on utilise. Mmh. Et si vous n'avez pas confiance, forcément la bonne solution. Mais du coup, il y a une autre solution dans laquelle vous pouvez être complètement confiant, c'est-à-dire override le DNS. Donc, c'est-à-dire réécrire par-dessus l'annuaire DNS.
C'est mettre un adblock pour ton Windows, quoi.
Globalement, mais toi, ça te paraît évident, mais pour les gens, ça ne paraît pas forcément évident. Globalement, tous les sites que Windows contacte en SoumSoum, on va leur changer leur adresse IP de destination. Donc, par exemple, le site onetrust.com, il est associé à une IP sur le logiciel Wireshark. On va prendre ce domaine, onetrust.com, ou le domaine plus spécifique qui contacte parce qu'on a potentiellement on a besoin d'aller sur le vrai site, et on va lui dire l'adresse IP que tu avais jusqu'ici, que l'annuaire DNS t'a donné, donc vraiment le bottin de l'Internet, tu vas la remplacer par l'adresse IP de mon ordinateur. Et donc, ça crée une boucle IP.
C'est le fameux fichier host.
C'est le fameux fichier host. Alors, si vous voulez...
Tous les gens qui ont déjà piraté un logiciel ont déjà utilisé, sans peut-être comprendre exactement ce qui se passait.
Exactement. Eh bien, j'allais y venir, c'est quand vous piratez un logiciel pour empêcher les accès serveurs, par exemple, si vous craquez Adobe, pour empêcher les serveurs de contacter Adobe, eh bien, ça modifie ce fichier host en créant une loop IP, une boucle IP, pour éviter que ça puisse contacter les serveurs d'Adobe.
Et un truc aussi bête que ça empêche la télémétrie.
Alors, il faut... Là, c'est très manuel, donc il faut récupérer, on va dire, faut... avoir à jour tous les domaines potentiellement qui sont contactés par Windows. Donc il faut potentiellement soit faire soi-même un Wireshark et récupérer un par un, soit faire confiance à des gens qui le font chez eux. Et voilà, Windows contacte ces domaines-là, et ben vous pouvez les blacklister, okay, entre guillemets. Vous pouvez faire ça au niveau du routeur aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça au niveau du PC, mais là je vous fais la version très simple parce que c'est modifié un fichier, c'est très bien expliqué, mais globalement, c'est modifié un fichier avec une liste, oui, une liste à copier-coller, et ça marche super bien. Voilà.
Simple.
Simple, efficace, mais ça ne verra plus de données à ce site.
Apparemment, tu as des repos qui traquent déjà l'ensemble de ces domaines qui permettent de faire de la télémétrie. Et donc, a priori, il y a simplement à se rendre sur des projets communautaires, comme ça existe tout souvent, évidemment, et à remplacer votre fichier host pour vous débarrasser. Mais moi, c'est mettre, il y a le côté me faire espionner, il y a même le côté psychologique de me dire, là, mon ordi, là, on dirait qu'il fait rien, et en réalité, il est en mode, ouais, à envoyer des requêtes partout. Mais et même psychologiquement, me dire, arrêtez tout ça, avoir un peu de sérénité, repasser sur Windows XP.
On se rend pas compte, mais c'est tellement traître, on te dit, c'est de la télémétrie, c'est juste pour mieux comprendre comment tu utilises ton ordi et tout.
Les mots qui sont utilisés, personnalisation, suggestion et tout ça, c'est...
des données pour améliorer l'expérience, des trucs comme ça.
Et globalement, lancer un Wireshark sur une machine moderne, ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, quand vous ferez cette procédure de créer une boucle IP sur ce domaine-là, ça va pas les supprimer de Wireshark, vous les verrez toujours, juste qu'en fait, ils iront nulle part, vu qu'ils resteront sur votre PC. Mais il ne faut pas s'étonner de ne pas les voir disparaître du jour au lendemain.
Une alternative dont parle le chat, c'est Pi-hole, qui est effectivement un projet que tu peux installer sur un Raspberry, par exemple, sur ton réseau, et qui fait ce genre de blocage d'adblock, on va dire, à l'échelle de ton réseau. Le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où tu quittes ta maison, tu changes de routeur, eh bien, ton trafic réseau ne passe plus par ton adblocker. Ouais. Et donc, voilà, c'est quand même le problème de ces solutions.
Mais très stylé, si vous avez l'opportunité de... Mais en fait, ça demande un tout petit peu plus de compétences techniques. Se dire, OK, je vais me prendre un Raspberry, installer un Pi-hole, ou avoir... C'est possible de le mettre sur un NAS, Pi-hole?
Ouais, je pense. Probablement.
Ouais. En tout cas, sur des NAS un peu stylés. Et c'est encore mieux si tu peux faire de l'adblocking. Non, franchement, Pi-hole, trop.
Très bonne occasion d'apprendre, hein, franchement.
C'est super d'installer un Pi-hole. Faites-le, vous allez kiffer. Et du coup, pour finir avec la citation de notre cher, je l'ai pas cité en plus, Daniel Alexandersen. Donc, c'est celui qui a trouvé l'astuce de Europe World et Europe. C'était quoi le. Non, c'était pas Europe. World et
US,
English, non, English, pardon, ouais. English World, English Europe. Il termine son billet de blog. Vous voulez pas de bloatware, de service d'abonnement préinstallé sur votre ordinateur? Pensez à installer Linux au lieu de Windows la prochaine fois que vous réinstallez votre ordinateur.
Donc, ou macOS.
Il avait la même conclusion que toi, Rémi.
Et le dernier truc dont t'as pas parlé, c'est les OS custom.
Mais oui, mais alors j'ai un peu cherché mais si tu
bah non, mais alors on en parlera peut-être une autre fois. Mais il y a une dernière catégorie qui est là, on va dire que c'est des solutions qui sont très pratiques à partir du moment où vous avez un ordi déjà installé, que vous avez probablement pas envie de passer par des processus d'installation extrêmement longs, etc., et de faire des réinstalls de votre ordi. Mais si c'est le cas ou que vous venez d'avoir un ordinateur tout neuf, eh bien vous avez le choix d'installer des versions modifiées de Windows en fait. Donc ça, quand il y a une version, on va dire, officielle, déployée par Microsoft ou par les fabricants, donc un fichier ISO, tout simplement, qui s'installe sur une clé USB ou directement sur le disque dur pour une installation, eh bien, des gens s'amusent à modifier ce fichier ISO pour créer des versions alternatives de Windows qui sont beaucoup plus light et compressées. Et donc, leur objectif, c'est de se balader dans ce fichier d'installation, qui est vraiment une image disque, quoi, pour repérer tout ce qui pourrait être facultatif et être enlevé, finalement. Et t'as des versions vraiment pour tous les goûts. Donc, t'as un Windows où ils vont t'enlever tout le bloatware, mais te faire quelque chose de très ressemblant à l'expérience de base. T'en as qui vont aller vraiment très très loin et leur objectif c'est de pouvoir faire tourner Windows 11 mais genre sur une brique, tu vois. Donc actuellement t'aurais besoin de 8 gigas de RAM minimum conseillé par le constructeur. Eux ils arrivent à te le faire tourner sur 2 gigas de RAM sans aucun problème, juste parce qu'ils t'enlèvent Windows Defender, ils t'enlèvent Cortana à la recherche, enfin vraiment ils te débloatent comme on dit ton OS au point où il y a quasiment plus rien à la fin. Et quand on y réfléchit, c'est parce qu'on pourrait se dire, bah, autant utiliser genre un vieil OS comme Windows XP, mais là, t'as des problèmes de compatibilité en général.
Avec ouais, et de mise à jour de sécu aussi.
C'est ça. Et donc, en gros, si tu veux le meilleur des deux mondes entre un truc qui ressemble à un vieil OS qui est très très light et limité aussi en termes de fonctionnalité, mais du coup, léger et performant, et que t'aimerais aussi la modernité d'un Windows 11, et ben, t'as ce truc entre les deux qui est un peu le meilleur des deux mondes et qui est des versions genre ultra léges de Windows. Il y en a plein. Un des soucis quand même de ces projets,
ouais.
Exactement, c'est la confiance. Parce que on sait pas exactement en général ce qu'ils font à l'intérieur. Comme de base, Windows est un logiciel propriétaire,
c'est impossible de
vérifier. Alors peut-être qu'avec des histoires tu pourrais potentiellement vérifier là au moins que les fichiers système ont pas été modifiés, mais globalement voilà, vous avez tout de suite vu le problème, c'est que tu déplaces comme tu dis la confiance de Microsoft à un acteur un peu connu.
Ils étaient tous frileux sur le chat quand t'as commencé à parler. Il y en a un qui demande pour les mises à jour, ça fonctionne ?
Je crois que oui. Ouais, je crois que ça fonctionne sans problème. Effectivement, on est d'accord, hein, que c'est pas du tout idéal, que probablement que partir d'une installation clean et après avoir des outils open source qui te la nettoient, ça reste entre guillemets quand même plus legit. Mais je trouve ça marrant de voir l'énergie qui est mise
par contre, c'est
communauté
super stylé d'arriver à faire ça.
Exactement. Et vraiment, c'est hyper communautaire et il y a énormément de versions. Enfin, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts qui sortent. Ils se battent les uns les autres pour grappiller genre 10 mégas de RAM supplémentaires ou te réduire vraiment ton fichier d'installation à 1 giga. Et ouais, c'est assez marrant à suivre. Donc, à vos risques et périls, faites quand même bien attention. C'est très, très compliqué de vérifier ce qui s'y passe. Il y a le minimum effet quand même. Tu peux voir s'il y a des requêtes qui partent vers l'extérieur, des choses comme ça. Mais tu peux jamais avoir la garantie à 100% que la personne qui te fournit cette version custom de Windows a pas caché un système genre qui se réveille au bout d'un mois, par exemple, et qui te shift tes documents. Donc voilà, faites gaffe. mais ça peut être une autre solution à côté du déblotting des hosts et de débrancher Internet et d'utiliser Linux, qui est évidemment la solution ultime à tous vos problèmes.
Parfois Windows, il y a des besoins.
Oui, parfois il n'y a pas le choix quand même.
Sinon Windows n'existe pas.
Juste, il y a des gens dans le chat qui ont déjà demandé tout à l'heure, c'était quoi les deux softwares qui permettaient de nettoyer ton Windows.
J'arrive.
J'ai lu Shutup 10, ça.
ONO. Shutup 10.
Ça. Et Ultimate Windows Tweaker.
Ouais, 4. Voilà, exactement, c'est ça.
Est-ce que tu peux checker Atlas OS, parce que je le connais pas celui-là. Et ça m'a piqué ma curiosité avant qu'on passe à l'étonne.
C'est joli.
Proposition du chat.
Ah, mais c'est.
Ah oui, alors c'est.
C'est une interface graphique de Windows.
Il y a un focus pour gamer.
Privacy, c'est noté.
Mais ça m'a l'air.
Alors, la com est incroyable. La landing page donne envie.
Parce que c'est un autre aspect qu'on n'a pas traité. Il y a évidemment la question des données privées, à savoir le fait d'avoir des requêtes qui partent non-stop sur les données d'usage, etc. Mais un gros argument aussi pour modifier ton Windows, c'est les perfs. C'est-à-dire que sur, là, comme on peut le voir, si ton OS par défaut il a 10% d'utilisation et 2 gigas et demi de RAM, ben ça casse les pieds en fait.
pour c'est pour toi qui as envie d'utiliser le moindre pourcent de ton hardware que tu as durement acheté, et ben un autre très bon argument pour utiliser un OS modifié du coup, ben c'est par exemple Atlas OS que j'ai pas essayé personnellement, mais s'il y en a qui l'ont utilisé, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, c'est un des plus connus.
Et ça a été dit par le chat ou
ouais c'était partagé par le chat.
Trop bien.
Et dernier commentaire effectivement que j'avais vu passer, c'est que t'as beau avoir ta version custom d'OS, ça ne règle pas les éventuelles portes dérobées ou spyware que tu pourrais avoir dans ton BIOS, ouais, qui vient en général avec ton fabricant, donc c'est pour ça qu'il y a des projets alternatifs genre Coreboot ou
ouais, il y a des BIOS alternatifs, ouais,
qui serviraient justement à éviter ce problème là mais bon, c'est pour une autre histoire.
Oh ouais, une chronique sur les BIOS alternatifs.
Voilà, on va perdre un peu des gens. Mais
sans la ligne édito, mais quel régal, si je peux me permettre.
Il y a ReactOS aussi. C'est marrant, il y a tous les vieux projets qui ressortent. Vous connaissez ReactOS ?
Ouais, ça me... Atlas, ça j'ai jamais entendu parler, tu vois, mais...
Alors, si tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est une version rétro-ingénierie de Windows en open source.
Mais je me demande si on n'en a pas parlé dans l'émission il y a très longtemps.
C'est possible. Ben c'est en gros, ils essayent de répliquer entièrement les API systèmes, etc.
Oh, wow.
De Windows pour qu'un binaire développé sur Windows tourne avec leur OS, leur kernel. Tu vois.
C'est des gens qui ont beaucoup de temps. Non mais globalement.
Et beaucoup de skills aussi. Visiblement.
Énormément de skills.
ouais, c'est assez dingue. Mais bon, c'est illusoire d'espérer une version. Complètement fonctionnel, etc.
C'est le genre de truc que t'as envie de mettre sur un podium et d'applaudir très fort, mais que a priori tu ne toucheras jamais.
A priori.
Mais c'est incroyable.
Très stylé.
Il y a énormément de projets dont on parle, c'est ça. Hein. Donc,
cool.
Attends, Nicode OS, tiens, dis donc.
Oui. nous avons un travail. On va perdre des gens à parler de l'alternative BIOS. Les gars, vous n'avez pas compris quelle audience vous avez. Si, justement, nous avons compris. Mais pas vous.
Mais c'est parce que sur Twitch, nous avons la crème de la crème.
Exactement. Sur Twitch, nous avons les plus gros cerveaux, finalement.
Et ce sera cut au montage.
Et ce sera cut. Et on va tourner après le live un truc sur YouTube. C'est vraiment les best. En podcast, vraiment, ils gèrent. Tout sera édité.